Bonjour à tout le monde. Le titre du sermon aujourd'hui, le repos de la fête des tabernacles qui approche. Voyons d'abord une description des temps où nous sommes. Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Les temps où nous sommes rendus, on les attendait. Et maintenant, on voit ce qui a été annoncé d'avance se dérouler sous nos yeux. Matthieu 24, nous allons lire les versets 6 et 7. Le Christ a dit, en parlant du temps de la fin où nous sommes rendus, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et c'est plus que jamais, et beaucoup en même temps, un peu partout à travers le monde. Gardez-vous d'être troublés. Ne vous inquiétez pas autrement dit. C'est dérangeant, ça fait mal au cœur. » de voir venir ça, mais il dit, gardez-vous d'être troublés, vous savez mieux que ça, car il faut que ces choses arrivent, et il nous en a avertis, pas pour nous décourager, mais pour qu'on sache que lui, plus puissant que tout, va régler ces choses-là qui s'en viennent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ces choses-là augmentent et vont augmenter encore. Mais il dit bien, gardez-vous d'être troublés. Le Christ promet et donne l'aide et les moyens nécessaires à ses serviteurs pour ne pas qu'ils se laissent être troublés, dérangés, perturbés ou déroutés par tous ces événements qui frappent le monde actuellement. C'est pour ça qu'il nous en a parlé d'avance. Et un des moyens qu'il nous donne, c'est justement l'observance de la formidable fête des tabernacles et notre préparation à ce qu'on aura à faire quand le Christ va revenir. Allez maintenant dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Commençons par lire les versets 2 et 3. Le Christ nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on sait que les demeures dont il est question ici, c'est des postes, les postes qui nous sont attribués, les charges ou nos responsabilités dans le monde à venir. Il y a plusieurs postes dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, un poste. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, un poste, je reviendrai. Ce qui va se passer bientôt. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On sera avec lui à ce moment-là. Mais là, je reviens au verset 1 du même chapitre qui rappelle ce qu'on vient de voir dans Matthieu 24, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en ce qu'il nous a promis, à l'aide qu'il nous donne et qu'il va nous donner au cours des mois qui viennent. Chaque automne, pour obéir au commandement de Dieu, on voyage physiquement vers un lieu physique de la fête pour y être enseigné justement par rapport à ce qui s'en vient et avoir une image plus belle, plus précise et encourageante des choses qui nous attendent. Alors, en faisant ça, on s'éloigne de la course effrénée de notre vie actuelle. On s'éloigne de nos travaux, de nos difficultés, de nos soucis, de nos tracas, qui sont temporaires, qui sont temporaires. Pourquoi? Pour se tourner à la fête, pour tourner nos yeux et notre cœur vers ce qui sera permanent et heureux. Vers ce qui sera permanent et heureux. Alors, écoutez, cette année, nous montons à la fête, bien sûr, au moment où le monde entier est en grand bouleversement, dans l'incertitude, inquiet, et j'ajoute, en sursis de ce qui est tout proche. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Et l'autre question que je pose, quelle sera la situation lorsque nous reviendrons de la fête des tabernacles. En célébrant cette fête, on va être fortifié. Pourquoi? Parce qu'on obéit à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, Dieu bénit ceux qui lui obéissent. En leur donnant son Saint-Esprit, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, comme c'est marqué dans Actes 5, verset 32. Alors, en allant à la fête pour apprendre ses voies, on lui obéit, et à ce moment-là, Dieu nous bénit. Comme il va bénir ceux qui sont empêchés de venir à la fête physiquement, mais qui vont la célébrer comme il faut chez eux. C'est ce que Dieu fait. Alors, en célébrant la fête, on va être fortifié et on va être aussi encouragé par les promesses infaillibles du Tout-Puissant concernant l'établissement prochain de son royaume. Il est clair que le monde actuel tire à sa fin. Et il est clair aussi que ce n'est pas le monde de Dieu. Ce sera le monde de Dieu quand le Christ sera là. Là, ça va changer complètement. C'est pour cette raison que notre espoir à nous, ce n'est pas dans les banques, ce n'est pas dans les Nations Unies, ce n'est pas dans les prochaines élections, absolument pas. Notre espoir à nous, c'est dans le retour prochain du Christ, du roi des rois. Et notre espoir à nous, c'est dans la belle fête des tabernacles que nous allons célébrer très bientôt. Un aspect important de l'ensemble de notre démarche chrétienne, c'est de rester centré sur le plan de Dieu, sur ses promesses. C'est ça qui nous aide à avancer malgré les soubresauts qu'on a à traverser dans les circonstances. C'est d'ailleurs une clé pour garder le soutien de Dieu, rester proche de lui. C'est ça ce qu'il nous dit, hein? Soyez proche de moi et je serai proche de vous. Alors c'est une clé de rester sur le plan de Dieu et sur ses promesses. Une clé pour garder son soutien et une clé aussi pour nous assurer de sa puissante protection à la toute fin qui approche. Où est-ce qu'on en est dans le temps? Reportez-vous à Matthieu 24. Matthieu 24, un chapitre que vous connaissez très bien, qui décrit les événements du temps de la fin. Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24, et lisons le verset 14. Ça décrit un des aspects importants du temps où nous sommes rendus. Cette bonne nouvelle du royaume, du gouvernement mondial de Dieu qui approche, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand le Christ a annoncé ça, ce n'était pas fait du tout à l'époque. Ce n'était pas annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est annoncé pratiquement partout dans le monde entier. C'était une annonce prophétique et on voit que ça s'adresse vraiment à nous. On avance. Il reste pas grand territoire qui n'a pas été couvert. Alors demandons à Dieu ses bénédictions pour nous donner le plus rapidement possible de terminer la mission qu'il nous a donnée, de compléter l'annonce de l'Évangile, de sorte qu'il puisse déclencher la décision de dire au Christ, le temps est venu, retourne et établis mon gouvernement sur la terre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Dans les circonstances où on se trouve, la réponse, elle est au verset 13, juste un peu avant. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va tenir bon avec ma force, c'est ce que Dieu dit. Celui qui va tenir bon avec ma force, qui restera proche de moi, qui va garder les bonnes priorités, celui-là qui va tenir bon là-dedans recevra la vie éternelle. Alors voyez-vous, nous devons persévérer dans les circonstances actuelles, bien sûr, et dans les circonstances qui viennent, dans les circonstances futures. Et dans les circonstances futures, on voit par les textes qu'il y aura des difficultés encore plus grandes. Il faut le savoir d'avance, et ça nous aide à ne pas en être surpris quand ça va arriver, mais à nous y préparer. Et là, je vais vous donner un exemple qui est arrivé dans le passé, qui a bien fini, et ce sera la même chose pour les fidèles serviteurs de Dieu au temps de la fin. Rappelez-vous pour ça des Israélites anciens. Juste avant d'être libérés de l'Égypte, ils étaient des esclaves là-bas, pas moyen d'en sortir. C'est Dieu qui les a sortis. Mais avant d'être libéré d'Égypte, vous savez que Dieu a envoyé des plaies, a envoyé 10 plaies sur les Égyptiens. Et les Israélites, quand ces plaies-là ont été envoyées, ont d'abord vécu et expérimenté les 3 premières de ces 10 plaies. Autrement dit, ils ont eu des temps difficiles avant d'être libérés totalement, avant de pouvoir quitter l'Égypte. Ils ont vécu les 3 premières plaies, vous pourrez voir vous-même dans les textes. 1. Les eaux changées en sang durant 7 jours. Toutes les eaux changées en sang durant 7 jours. Première plaie. 2e plaie, les innombrables grenouilles vivantes et mortes à travers tout le pays. Ça, c'est la 2e plaie. Ils l'ont vécu. 3e plaie, les poux. À la grandeur du pays également. Apparemment que c'était atroce, là. Mais, à partir de là, Dieu a tracé la ligne. Et là, il a fait une différence entre son peuple et les Égyptiens pour protéger son peuple. Alors, avant la 4e plaie, comme vous allez voir, ce sont des mouches vénéneuses à travers tout le pays. Avant la 4e plaie, Dieu a dit à Pharaon qu'il ferait à ce moment-là toute la différence entre son peuple, les Israélites et les Égyptiens. Allons voir en passant ce passage-là, c'est vraiment intéressant. Dans le livre d'Exode, au début de la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 8. Exode 8. Lisons les versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre toutes tes maisons. Tes maisons, les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. » Maintenant, regardez bien les versets 18 et 19. « Mais en ce jour-là, » ça c'était le message qui était envoyé à Pharaon, « mais en ce jour-là, je, Dieu, distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Verset 19, « J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Dieu est puissant. Quand Dieu dit une chose s'arrête, elle s'arrête. Et il a protégé son peuple. Et vous allez voir, c'est la même chose qui va se produire pour nous. À la fin, Dieu va agir exactement pareil avec ses serviteurs fidèles. C'est pourquoi il nous faut continuellement être proche de Dieu, se préparer spirituellement et mentalement. Et dans ce sens-là, la fête des tabernacles est une formidable occasion pour nous aider et pour nous aider à honorer notre grand Dieu, ce qu'on doit faire à la fête. Apprendre à le craindre, c'est-à-dire à le respecter, à l'admirer. Et on va découvrir des choses à la fête qui vont nous aider à admirer notre grand Dieu encore davantage. Pour apprendre ses voies, c'est pour ça qu'on va à la fête. Pour nous réjouir, c'est un commandement qu'il nous donne quand on va à la fête, de nous réjouir des belles choses qui viennent, de laisser nos tracas derrière puis de se réjouir de ce qui s'en vient devant nous, de rêver de la délivrance qui approche, d'être encouragé, de développer la foi. Dans ce sens-là, c'est, on pourrait dire, amasser de l'huile, comme les vierges sages de Matthieu 25 doivent faire, se servir de toutes les occasions pour amasser le plus d'huile possible, de sorte que quand les occasions vont devenir plus difficiles ou les situations vont devenir plus graves, nous aurons ce qu'il faut pour passer à travers. Et encore là, c'est une façon de garder notre réponse à l'appel de Dieu vivante, active et vibrante pour qu'on puisse passer à travers tout ce qui vient. On voit qu'il ne faut surtout pas diminuer de le faire. Alors que plusieurs choses graves arrivent, En ce moment, comme j'ai mentionné, partout sur la terre, parce que le monde ne sera plus du tout le même d'ici quelques mois. Le monde ne sera plus du tout celui que nous connaissons maintenant d'ici quelques mois. Et si certains d'entre nous ont diminué de prier ou d'étudier dernièrement, c'est le temps de corriger le tir. En profitant de la fête des tabernacles pour le faire, et en prenant, pour ainsi dire, un nouveau départ. Et ça, ça fait tellement bien lorsqu'il nous arrive, et ça arrive à tous les membres de l'Église, un jour ou l'autre, de diminuer dans certaines choses. Et c'est l'occasion de se refocuser, si vous voulez, sur les belles choses de Dieu et de se remettre à l'ordre. Allez dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. C'est une réflexion sur la préparation de la fête que je fais aujourd'hui avec vous. Puis en même temps, pour qu'on voit que la fête, ça va être un repos de nos fardeaux habituels pour nous renforcer. Luc 21, et le verset 36. Et ce qui nous est commandé ici, on doit aussi le faire durant le temps de la fête. Veillez donc. Veillez sur votre condition spirituelle. Veillez sur où vous êtes rendu spirituellement, ce que vous avez encore à changer. Veillez donc et priez en tout temps. Il ne faudra pas prier moins parce qu'on est à la fête. Il faut continuer notre routine de prière. Afin que vous ayez la force, et c'est ce que je vous explique, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. Et si vous êtes debout à ce moment-là, c'est que vous serez encore vivant. C'est qu'il vous aura protégé et que vous serez resté vivant jusque-là. Alors, on doit veiller et prier à la fête des tabernacles. Verset 34 maintenant. Je recule un peu en haut parce que ça s'applique aussi à la fête des tabernacles. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et ça, je pense que tous les membres de l'Église ont déjà passé par là. Moi, le premier. Les premières fêtes qu'on allait, on mangeait trop. On se couchait tard, on était fatigué. Parfois, on avait de la difficulté à suivre les messages et ainsi de suite. Parfois, les gens buvaient trop. Moi aussi, on buvait trop. Et il a fallu corriger des choses de ce côté-là. Alors, il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Alors, faut faire les choses comme Dieu. Et par les soucis de la vie. Donc, ne gardons pas les soucis de la vie durant la fête. Faisons un effort pour laisser ça de côté. Notre cœur, il est vers ce qui vient. Et si notre cœur est vers ça, on sera fortifié puis encouragé. On sera capable de faire face à la musique ensuite. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors, il nous dit, faites l'effort de laisser derrière vous tous les soucis. Je vous donne un exemple physique de ça. Je l'ai fait plusieurs fois. Quand on ramassait de la roche dans les prairies après la préparation des terrains pour les semences, au printemps, à ce moment-là, on ramassait de la roche dans des grandes chaudières. Puis on n'était pas vieux, là. Puis à un moment donné, on avait un grand bout à faire pour aller verser cette chaudière-là dans le wagon. Et parfois, on était épuisé avant d'arriver. Alors, on mettait le seau par terre, on prenait notre souffle un peu, et là, on était bon pour se rendre au tombereau ensuite. Ça fonctionnait. Même chose spirituellement. Faut mettre nos soucis par terre, à côté. Les laisser à côté pour être capable de reprendre des forces. Il y a un principe là-dedans que j'ai trouvé dans la Bible en préparant le sermon. Allez à 2 Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques au début de la Bible, après les rois, 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Un principe important en cause par rapport à Dieu et à notre observance de la fête des tabernacles. Comment l'observer, comment la voir, comment mettre tout notre cœur dans la fête puis dans le fait d'apprendre ce qu'on a à apprendre, d'apprécier ce que Dieu fait pour nous, de l'adorer et de fraterniser avec les autres. Alors, regardez 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, « Écoute-moi, Aza, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Moi, j'ai coloré ça en jaune. Il y a des petits bouts de phrases dans la Bible que je colore en jaune qui sont des clés. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si nous le cherchons vraiment à la fête, non seulement nous allons le trouver, mais lui nous trouvera et nous bénira. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Un autre passage dans le même sens qui est tellement encourageant, une page suivante, 16, 2 Chroniques 16, le début du verset 9. 2 Chroniques 16, le début du verset 9. L'Éternel étend les regards sur toute la terre. Pourquoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Celle-là aussi, je l'ai colorée en jaune. L'Éternel a les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et c'est l'approche qu'on doit avoir vers le repos de la fête des tabernacles. Et vous savez, durant cette fête, durant la fête des tabernacles, qui est tellement importante pour lui, il va réaliser à ce moment-là une des étapes majeures de son plan. Durant la fête des tabernacles, Dieu observe ses enfants. Il observe ses appelés de façon particulière. Ceux qui vont être dans les divers sites de fête sur toute la planète. Et aussi ceux qui vont être à la maison, qui auront été empêchés d'aller à la fête. Parce que lorsqu'on peut y aller, on doit être là, on doit se présenter. Mais ceux qui vont être empêchés d'aller à la fête physiquement à cause de maladies, à cause de moyens financiers très limités, à cause de l'âge ou à cause des distances, Dieu aura les yeux sur eux également. Ils sont tout aussi précieux à ses yeux en célébrant la fête chez eux, dans leurs circonstances, que ceux qui seront physiquement à la fête. Dieu ne fait pas de distinction comme ça, absolument pas. Et j'ajoute d'autres choses. Il y a une belle promesse à ceux qui observent les fêtes de Dieu dans les trois saisons de fêtes annuellement. Allez à Exode, chapitre 34. Le livre de l'Exode, au chapitre 34. Dieu a une promesse tellement encourageante pour ceux qui observent ces fêtes en trois saisons de l'année. Exode, chapitre 34, on va lire les versets 22 à 24. Versets 22 à 24. Trois fois par an, donc à trois saisons de fêtes. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et regardez le dernier bout de la phrase. Celle-là, je l'ai soulignée en vert parce que c'est une promesse à ceux qui observent ces fêtes. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Lorsqu'on part de chez nous, qu'on laisse nos choses derrière, Dieu promet de prendre soin de nos choses. C'est ce qu'il dit ici. Allez à ma fête et laissez-moi m'occuper du reste. C'est tellement réconfortant. Donc, on fait ce qu'on a à faire et Dieu va s'occuper du reste pour nous. Cette année, je dirais, plus que jamais, demandons à Dieu de nous aider pour réellement vivre la fête des tabernacles de manière à lui plaire, de manière à lui plaire, de manière à aider les autres, les encourager, donc de manière à croître spirituellement chacun de nous. L'occasion de la fête, c'est une occasion en or durant l'année pour croître spirituellement de façon particulière. Reportez-vous à Psaume 34, s'il vous plaît. Psaume 34. Psaume chapitre 34. On va lire simplement un tout petit passage, verset 16. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans 2 Chroniques. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, pas ceux qui sont parfaits. Personne d'entre nous est parfait. Mais un juste aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui pratique sa justice, qui s'efforce de vivre selon ses lois. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voyez-vous, il y a une attention spéciale de la part de Dieu à ce moment-là. Et si nous le faisons à la fête, si nous lui demandons d'aller plus loin cette année pour lui plaire, pour nous occuper des autres de bonne façon et pour croître spirituellement, Vous allez voir sa main intervenir. Vous allez le voir répondre, parce que ce sont là des promesses absolument certaines. Il répond. Demandons-lui aussi à la fête, parce que c'est le sens de la fête, de nous aider à nous réjouir comme lui l'entend, comme il veut que nous nous réjouissions, pour que notre fête porte des fruits, vraiment. D'ailleurs, voyons le commandement que Dieu nous donne de nous réjouir à la fête. Reportez-vous à Deutéronome chapitre 16, le livre du Deutéronome, chapitre 16. Nous allons simplement lire les versets 13 à 16. Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, parce que c'est Dieu qui détermine le lieu où sont les fêtes, où sont célébrées les fêtes, à la fête des pains sans levain au printemps, à la fête des semaines, c'est la fête de la Pentecôte, et à la fête des tabernacles, c'est-à-dire aux fêtes d'automne. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera comme il le pourra. Et on voit dans les versets, à ce moment-là, on peut le voir à partir du verset 13, là je vous ai lu le verset 16, à partir du verset 13, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, c'est ce que nous allons faire, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. » Alors on voit que c'est à l'automne. « Tu te réjouiras à cette fête, toi, oui, ton fils, et ta fille, si nos enfants physiques sont avec nous, ton serviteur et ta servante, et le lévite, les ministres, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes. » Verset 15. « Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. » Alors, ce n'est pas ma fête, c'est la fête de Dieu, et je vais là pour lui et pour les autres. Et si je le fais dans ce sens-là, moi, j'en tirerai aussi profit. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Alors voilà le commandement qui nous est donné, des jours de joie pendant la fête. Des jours de joie pour vous-même, personnellement, mais pour votre conjoint, si vous avez le bonheur d'avoir un conjoint qui est avec vous, pour votre conjoint. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire quelque chose pour votre conjoint qui n'est pas là aussi. Un petit mot, une carte ou une attention particulière, des choses du genre. Pour vos enfants, si vos enfants sont là. Et bien sûr, pour ceux autour qui forment votre famille spirituelle et votre famille éternelle. C'est le commandement qui nous est donné. Alors, c'est pour ça que je dis, demandons et faisons de notre fête une fête d'abord spirituelle. Une fête d'abord spirituelle. Et pour ça, allons voir dans Matthieu, le chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6, c'est un verset qu'on peut appliquer directement à la fête des tabernacles pour justement en faire une fête spirituelle. On ne va pas là pour prendre une semaine de vacances comme on faisait quand on était du monde, qu'on ne connaissait pas le vrai Dieu, pour faire le plus de choses possible, se coucher le plus tard possible, manger le plus possible. C'est pas ça la fête de Dieu. C'est pas une vacance humaine, on va dire. C'est la fête de Dieu. Et on peut se réjouir, mais à la manière de Dieu, et goûter les belles choses qu'il nous donne. Matthieu 6, verset 33. Faut que nos priorités demeurent. Cherchez premièrement le royaume. À la fête aussi. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez le verset 34. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, ni du retour de la fête, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ce sont des lois que Dieu a établies, et ce sont des promesses fantastiques qu'il a données et qui s'accomplissent. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit garder les mêmes priorités durant la fête, de prier Dieu chaque jour et d'étudier raisonnablement chaque jour. D'être présent aussi, à toutes les réunions. C'est pour ça aussi qu'on va à la fête, pour apprendre à craindre l'Éternel, pour approfondir ses lois, ses voies, son plan. Alors, être présent à toutes les assemblées, y compris à la soirée d'ouverture et au dernier grand jour, l'avant-midi et l'après-midi. Ça comprend l'ensemble de la fête. Et aussi, nous appliquer, je mets la phrase de cette façon-là, nous appliquer à donner une bonne fête aux autres. Disons ça comme ça, donner une bonne fête aux autres. On est là pour honorer Dieu, mais pour donner une bonne fête aux autres, à notre conjoint, nos enfants s'ils sont là, mais à ceux autour de nous, donner une bonne fête aux autres. Comme il est écrit dans Acte 20, verset 35, je ne m'y reporte pas, mais Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, on va pas là pour chercher à prendre, pour chercher à donner, comme Dieu a fait. Et si on est là, c'est parce que Dieu nous a donné plein de choses pour y être, y compris d'abord la compréhension et le désir d'y être. Et ce faisant, il va nous bénir davantage. Alors, c'est pour ça qu'il faut porter attention aux autres. Et ça, ça fait également partie de ce que l'apôtre Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 27, la religion pure, qui consiste à s'occuper des autres, de ceux qui ont particulièrement besoin, des veuves, de ceux qui sont moins fortunés, et ainsi de suite. Quand on sera à la fête, allons vers les nouvelles personnes qui sont là. Il y en a qui vont être là pour la première fois, puis qui sont un petit peu mal à l'aise, ne comprennent pas tout et tout ça. Allez vers ces personnes-là. N'ayez pas peur, même s'ils ne vous connaissent pas. Allez vers eux, faites les premiers pas. Allez voir les nouveaux. Allez rencontrer les veuves. Invitez-les à prendre un café. Je me rappelle, M. Labrie avait l'habitude, des fois, quand il y avait des bonnes années de deuxième dîme, il rassemblait plusieurs veuves et ils allaient manger un repas ensemble. C'est formidable. Alors, ces dames-là n'étaient pas chacune de leur coin seules. Ils étaient ensemble. Et M. Labrie, les siens, les encourageaient puis passaient du temps avec eux. Ça changeait beaucoup de choses pour ces petites veuves-là qui étaient seules. Et elles s'en rappellent toujours. Aller vers les inconnus, aller vers les personnes qui sont seules. Donner de l'attention. Donner du temps. Prendre un café avec quelqu'un, partager un repas, donner un sourire, un mot d'encouragement. C'est ça, la fête. C'est d'être vraiment des ambassadeurs de Christ. De démontrer la façon de vivre qui est la culture de Dieu. Être reconnaissant, par exemple, envers les gens qui vont nous servir dans les restaurants et dans les hôtels. Ne pas avoir peur de dire merci, qu'on apprécie ce qu'ils font. Et si ça arrive pas comme on a voulu, ne pas critiquer. Être compréhensif envers les autres qui ne sont pas parfaits et qui travaillent souvent, de plus en plus, dans des conditions extrêmement difficiles. Vous seriez surpris de voir les conditions de certaines personnes qui nous servent dans les restaurants ou dans les hôtels, de voir leurs conditions personnelles, dans quelle position ils se retrouvent. Alors, ils sont pas là de gaieté de cœur et c'est pas facile pour eux de faire le travail. Alors, si nous sommes polis, si on est reconnaissant, si on ne critique pas, si on laisse passer des choses qu'on aime moins, on représente le Christ et ça leur fait du bien. Et s'ils reçoivent un merci par-dessus tout ça, si on dit, bon, écoutez, vous avez de la difficulté à le faire, inquiétez-vous pas, prenez votre temps, on va faire ce qu'il faut. Ça change toute leur journée. Le principe, Proverbe 3. Appréciation et reconnaissance envers les membres de l'Église, envers les serviteurs de Dieu, et envers le personnel qui nous sert à la fête. Proverbe chapitre 3, un tout petit passage qui va exactement avec ce que je vous dis. Proverbe 3 et le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Des fois, ce n'est pas des grandes choses, mais si on fait l'effort de le faire, de le dire le merci, d'exprimer la reconnaissance, qui est toujours due d'ailleurs, à ce moment-là, ça change tout. Puis nous, on développe le caractère de Christ. On devient de plus en plus comme lui. On devient comme notre grand frère. On est positif, joyeux, respectueux, patient. Et on fait les fonctions d'ambassadeur de Christ, d'être vraiment ses représentants. Et en faisant ça, on se vêt du fin lin, on se revêt du fin lin des saints. C'est ça, c'est les actions justes des saints. Un conseil aussi à la fête, n'essayez pas de tout faire. Moi, je l'ai fait dans le passé, on l'a fait, d'autres l'ont fait également. On arrive à la fête et on essaie d'être partout, de voir tout le monde. Essayez pas de rencontrer personnellement tous les gens de la fête, c'est pas possible. Essayez pas d'être au maximum à toutes les choses, pas être aux choses principales que j'ai mentionnées tantôt, mais toutes les invitations que vous recevez et tout ça, faut faire un ménage là-dedans pour être capable de rester l'esprit concentré sur la tête et choisir nos activités, avoir un équilibre dans le fond dans tout ça. Alors voyez-vous, la période de la fête des tabernacles, c'est une période annuelle pour nous rappeler le grand repos qui approche. Et le vrai grand repos qui approche, c'est pas la fête des tabernacles comme telle. Ça, c'est seulement un avant-goût, mais il est tellement bon quand même. Mais c'est un tout petit avant-goût du grand repos qui va venir par la suite quand le Christ va revenir. Le grand repos tout proche. Et la fête des tabernacles, c'est l'importance d'apprendre, d'approfondir, de pratiquer ici et maintenant les lois sur lesquelles le royaume de Dieu sera fondé. C'est ça. C'est ce que je vous ai expliqué, la façon dont on doit agir, c'est l'application des lois. Et ça devient nous, ça devient une seconde nature, si vous voulez. Plus on le fait, plus ça devient nous d'être capable de le faire. Et là, on le fait sur une petite échelle à la fête. Mais dans le monde de demain, on va le faire de façon générale, continuellement, et avec une portée beaucoup, beaucoup plus grande. Mais on sera habileté et habitué à le faire, parce qu'on l'a pratiqué avant. Alors voyez-vous, la fête des tabernacles, c'est un merveilleux rappel du temps proche où le monde va enfin connaître la vérité, connaître enfin la paix, et eux aussi connaître enfin le repos. Parce que cette année en particulier, pendant que nous allons nous reposer à la fête et laisser nos soucis derrière, le monde va continuer malheureusement à souffrir, à connaître les inquiétudes, l'angoisse par laquelle ils vivent de plus en plus maintenant. Nous, on sera comme dans une bulle avec le Tout-Puissant, avec nos frères et sœurs, pour rêver de ce qui vient, rêver de la délivrance qui va les englober et les concerner dans peu de temps. Alors, voyez-vous, ces deux mondes-là seront là en même temps. Nous serons sous l'aile de Dieu, pour ainsi dire, en étant nourris par lui et en fraternisant avec les autres. Pour ça, je vous dis que c'est un merveilleux rappel du temps proche où le monde va connaître lui aussi le vrai repos de Dieu. Ésaïe chapitre 11. On n'est pas loin, on est dans Proverbes, juste un peu après, le livre d'Ésaïe chapitre 11. Ésaïe, c'est un livre formidable parce que vous avez dans le livre d'Ésaïe tout le plan de Dieu en détail, de A à Z. Ésaïe chapitre 11, lisons les versets 9 et 10. Et il décrit ce qui va se passer dans le merveilleux monde à venir. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Dans tout le gouvernement de Dieu sur la terre, Dieu dit, il n'y aura ni tort ni dommage qui va se faire. Tout sera changé. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Plus nous allons enseigner les voies de Dieu sous le Christ à travers le monde, plus le monde va vivre selon les lois de Dieu et plus ils vont connaître, après avoir connu la vérité, ils vont connaître la paix, la prospérité, et c'est ce qui va se passer, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Eux aussi vont mettre à leur tour ce que nous sommes en train d'apprendre à mettre en pratique. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça laisse pas gros de place pour autre chose. Ça va être vraiment complet. Ça va se faire après le retour de Christ. Verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, le Christ, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. C'est ce qui nous attend et c'est ce qui attend le reste du monde. Parce qu'à ce moment-là, le reste du monde sera amené graduellement à être sous l'aile de Dieu à mesure qu'ils vont s'appliquer à vivre selon ses lois et eux aussi vont être, si vous voulez, sous la bulle de Dieu pour goûter ses lois. En terminant, reportez-vous au livre de Marc. Marc chapitre 6, s'il vous plaît. C'est une si belle phrase du Christ. En préparant le sermon, j'ai tombé sur ce verset-là. J'ai dit, waouh, ça arrive juste à point. Une phrase de Jésus pour nous concernant la fête des tabernacles. C'était pas la même circonstance quand il l'a dit à ses disciples, mais mais ça s'applique exactement à nous, comme vous allez voir. Marc 6, versets 30 et 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, ils ont dit au Christ le travail qu'ils avaient fait. Il y avait une mission, comme nous, on a une mission à terminer, et on lui demande de nous aider pour la terminer. Alors, eux étaient en train d'avancer, de compléter la mission, et ils étaient heureux de le faire. Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et regardez comment le Christ a réagi. Jésus leur dit, et sous-entendu, écoutez, vous avez travaillé fort, vous avez pris peine, vous vous êtes fait du souci pour être capable d'accomplir l'œuvre. Maintenant, venez à l'écart. Venez à l'écart dans un lieu désert, à part de tous vos travaux, à part de tous vos soucis. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. La vie était très vite pour eux aussi. Elle est très vite pour nous également maintenant. Mais ce que le Christ nous dit, je trouve que ça résume bien le message que je vous donne aujourd'hui. Dans mes mots, je vous résume ce que le Christ disait. Il nous dit, sortez! Sortez complètement de la routine surchargée de ce monde. Venez à la fête des tabernacles, à l'écart, pour vous reposer un peu, pour reprendre des forces, avant d'entrer bientôt dans le repos sans fin du monde de demain.